c'est toujours les étudiants de Lille 3, aux commandes de l'émission Quad 9. Et du coup, on s'est dit qu'on pourrait vous passer un petit peu de musique. Et là, ça va être Eddy de Préto qui passe dans le cadre des Paradis Artificiels, à la condition publique, justement. Bientôt.
Souvent je mens pour aussi papillonner, me faire croire que les passants pourraient être tous intéressants. Je m'évente d'admiration et m'extase à l'addiction d'une phrase ou d'un jeté de sourire vite interprété. Souvent je mens pour faire croire à mon dedans qu'il vibre démesurément et qu'il peut même plaire à plein temps avec juste un ou deux baisers que je chope à l'envolée. Je m'imagine des volcans qui inonderaient mes champs de plaies. Souvent je mens, je m'excite pour tous les gens qui lancent des pannes à l'attent comme ils lanceraient naturellement des sextos juste pour jouer avec très peu de finalité. Quant à moi, je tombe amoureux devant le paletant des gens fougueux. Souvent je mens et je sais en faire des caisses assez lourdes apparemment, car elles pèsent tout comme elles restent pendant des semaines de galère où je rame à tout défaire, m'émanciper de ces affaires. Bien regarde, je ne sais pas le faire. Oh, 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 oh. Cœur en dame, 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 je crois en tout ce qui cogne, comme, cogne, j'ai pas compris les codes, même si ça m'impressionne, fuck si j'ai pas la cote, comme ça je me mens. J'ai le cœur en dame, 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 chaque fois que je tombe croque, love, 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 j'ai pas compris les codes, même si ça m'impressionne, fuck si j'ai pas la cote, comme ça je me mens. Souvent je mens, encore plus quand il y a air. Je me fais mes films en grand et je fonce même sans critères. Mais il s'avère que ce n'est qu'un plan. Comme d'habitude, je me prosterne car ce grillé est indécent, surtout devant l'imaginaire. Souvent je mens, dans des courses à court de nerfs. Ça me donne des jours rêvant d'amour fou et de minerve. Pour oublier les emmerdes, je surveille les blogosphères, tous les détails croustillants qui me mettent encore plus à terre. Souvent je mens, pour me donner de l'épaisseur, comme des centaines de manteaux que je mets pour faire couler la sueur. Car ici il fait pas chaud et tous ces sauts donnent la chaleur, avec un tout petit goût de faux qui laisse le tout fade sans saveur. Souvent je mens pour frétiller en douceur, me faire bander aisément dans des rêves lourds et à pas l'heure. Je m'imagine même sans dents embrasser des jolis cœurs qui acceptent bénévolement de se livrer à tous mes leurs. Oh, 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 oh. Je crois en tout ce qui gagne, comme, comme, j'ai pas compris les codes, même si ça m'impressionne, fuck si j'ai pas la cote, comme ça je me mens. J'ai le cœur en dame, 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 chaque fois que je tombe croque, love, 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 j'ai pas compris les codes, même si ça m'impressionne, fuck si j'ai pas la cote, comme ça je me mens. Car il me manque cette audace, des prises de position classe avec des je t'aime efficaces, sans les jeux de baise à la ramasse. Il me manque ce petit tac de sursoi pour que ça marche, en attendant je mets des races, puis je crois en tout ce qui se passe. Je crois que j'ai pas compris les bases, pour qu'autant je galère au max. Mais comme Jacques disait des dames, c'est ton pire ennemi qui est en face. Du coup je fais comme d'hab, je me cache et je m'invente des cœurs qui frappent en criant des idoles en masse, tout en les épiant sous mon masque. J'ai le cœur en dame, 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 je crois en tout ce qui cogne, comme, comme, j'ai pas compris les codes, même si ça m'impressionne, fuck si j'ai pas la cote, comme ça je me mens. J'ai le cœur en dame, 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 chaque fois que je tombe croque, love, 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 j'ai pas compris les codes, même si ça m'impressionne, fuck si j'ai pas la cote, comme ça je me mens.
On continue avec notre seconde interview menée auprès de François Vergin, animateur de l'architecture et du patrimoine au service Ville d'art et d'histoire de la ville de Roubaix, animé par Yaël et Hugo.
5. Le label Ville d'art et d'histoire, décerné par le ministère de la Culture, peut être un moyen pour les villes au patrimoine conséquent et témoignant d'un passé riche de valoriser et de partager son histoire. C'est en 2001 que la ville de Roubaix obtient ce label, lui permettant alors de poser une nouvelle pierre à sa dynamique culturelle. François Vergin, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être ici pour répondre à nos questions.
Je vous en prie.
Donc d'abord, en quoi était-ce une nécessité d'obtenir un tel label pour la ville de Roubaix ?
Bah, disons que c'est un combat qui reste quotidien en réalité, puisque vous le savez, Roubaix est une ville qui n'est pas homogène. Il y a des difficultés et un des leviers qui a été utilisé pour essayer d'inverser les tendances, c'est le levier culturel. Et Roubaix n'était pas attendu, quelques années avant l'obtention de ce label, comme vous le disiez en 2001, sur un tel registre. Or, il s'avère que la ville, justement, a cette identité profonde construite sur une histoire rapide, mais importante. Et légitimement, il y a eu un engagement pour obtenir ce label, qui a été obtenu. Et justement, aujourd'hui, on réalise que, de plus en plus, en tout cas, et les habitants eux-mêmes, ce qui est très important, la ville a un véritable patrimoine, et celui-ci est ouvert à tous.
Et donc, quand on obtient un tel label, par où on commence ?
Alors, concrètement, il y a tout simplement un dossier à présenter. Voilà. On ne va pas taper à la porte du ministère et lui demander s'il veut bien nous recevoir. Ce serait facile, mais un peu compliqué, puisqu'il y aurait beaucoup de demandes. Donc, en réalité, il y a un dossier assez long qui est monté, qui souvent demande plusieurs années. Nos collègues de Tourcoing ont mis un peu plus de temps encore, et ils l'ont fièrement obtenu aussi. On peut les féliciter cette année, enfin en 2017, excusez-moi. Et le dossier vise à faire un état des lieux complet, bien sûr, de ce patrimoine en question. Ensuite, des moyens disponibles et évidemment, troisièmement, de l'ambition et des projets ou du projet qui est présenté, à savoir la valorisation elle-même. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de disposer d'un beau patrimoine, entre guillemets. Encore faut-il être en capacité de le mettre en avant, de le défendre avec des moyens financiers, mais bien sûr humains. Et en réalité, le label ensuite est obtenu parce qu'il y a bien une conviction qui est présentée et une capacité d'action qui sera soutenue en réalité par le ministère, encadrée sur certains points, mais surtout soutenue. Et c'est tout à fait vrai à Roubaix. Les efforts viennent principalement de la ville et des moyens qu'elle met en place. Et le ministère, de façon conséquente, nous soutient et nous conseille. Mais ça n'est pas le ministère qui met en place les choses. C'est bien le territoire en question et c'est vrai pour tous les territoires du label.
D'accord. On imagine que c'est un label qui permet de mettre en place des actions, des nouvelles actions en tout cas. Quelles actions on met en place en premier temps quand on obtient un tel label ?
Alors concrètement, c'est assez simple. On a tout simplement au départ donc les fameuses visites guidées. C'est pratiquement l'outil le plus simple. Et il est d'autant plus important qu'il est utilisé beaucoup à destination des enfants et du jeune public. Voilà. Donc ça, c'est un moyen de médiation très efficace où vous allez organiser un ensemble de parcours ou de sujets, d'objets. Vous allez le décliner en plusieurs solutions, dont la fameuse visite guidée. Et surtout à destination justement du jeune public. Ça, c'est très important. Donc d'abord, assez facilement auprès du public scolaire. Donc il faut bien vous faire identifier par les établissements scolaires, par le rectorat, par les académies. On travaille souvent en étroite relation avec eux. Et ensuite, eh bien, vous pouvez ainsi atteindre les élèves par leurs professeurs et les programmes. Alors ça va, pour l'ambition roubaisienne par exemple, ça va des tout petits, à partir de la maternelle, jusqu'aux universités. Puisqu'il y a par exemple 12 000 étudiants à Roubaix, et les étudiants sont aussi un public, que nous essayons d'ailleurs de viser de plus en plus, parce qu'ils sont très nombreux. Et on essaye aussi de leur démontrer que la ville dans laquelle ils ont choisi de faire leurs études a justement d'autres qualités que celles qui pourraient animer leur quotidien. Et ça se vérifie. J'ai en tête par exemple la nuit de l'académie qui va bientôt se dérouler au musée. lors de laquelle les étudiants roubaisiens sont invités à venir pour une soirée spéciale, déambuler dans le célèbre musée La Piscine, et en particulier pour y faire des croquis. Et c'est une opération qui a de plus en plus de succès. Elle est organisée par une de mes collègues, ça n'a rien à voir avec la culture, mais c'est clairement culturel, évidemment, le lieu qui le reçoit est culturel. Mais là, on a bien un bon exemple de la façon dont la ville, les services ou des gens qui travaillent à Roubaix peuvent se saisir de cette identité culturelle et l'offrir à un certain public. Voilà, j'ai un peu dérivé, mais l'idée est là, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'actions que nous mettons en place à destination d'abord du jeune public et donc en réalité d'abord des Roubaisiens.
D'accord. Alors, on suppose que Roubaix, c'est un travail de relation avec les structures partenaires. Alors, quelles sont ces structures partenaires? Partenaires, et comment arrivez-vous à maintenir une certaine harmonie? Quelle relation entretenez-vous vis-à-vis de ces structures?
Alors, je vous le disais à l'instant, nous avons ces relations avec le public scolaire. Donc là, c'est un travail qui se fait avec les inspections académiques, qui sont pour nous des intervenants et des partenaires très importants. Parce qu'ils nous mettent justement, comme je vous le disais, en relation avec les établissements, avec les enseignants et donc ensuite les élèves. Ça, c'est un premier point. On a aussi, évidemment, tout un ensemble d'équipements culturels et de services municipaux ou parfois métropolitains avec lesquels nous travaillons. Donc ces équipements, par exemple, dans notre domaine culturel, c'est bien sûr la médiathèque, le musée, les archives, j'en passe. Il y a d'autres structures autonomes comme la condition publique. Il y a aussi l'office de tourisme. C'est encore un autre aspect. C'est une structure initialement associative, mais qui est un véritable outil de terrain pour nous, un partenaire très très étroit. Et bien sûr, comme je le disais pour l'office, par exemple, il y a toutes les associations. Il y en a des centaines à Roubaix, dans de nombreux domaines. Et il y en a plusieurs aussi dans le domaine culturel, dans le domaine sportif aussi. C'est lié parfois, bien sûr, puisqu'elles, par exemple, elles vont atteindre un jeune public. Donc ces associations, nous travaillons énormément en relation avec. Parfois, il y a des opportunités tout à fait originales qui nous font travailler avec d'autres associations. Mais en général, disons que les services ont des systèmes de pilotage qui, notamment, sont liés aux subventions, par exemple, parce que les associations ont besoin d'aide financière, par exemple, pour mieux fonctionner ou mise à disposition de locaux. Et dans ce sens, il y a déjà des relations techniques et administratives avec les associations. Mais ensuite, il y a en effet le développement des projets. Et c'est une politique tout à fait particulière à Roubaix que de mettre en avant d'abord les associations. Ainsi, d'une certaine manière, nous avons des services qui sont directement rendus par le fonctionnement avec une association. Je vais vous prendre, par exemple, le cas des Journées du patrimoine. Eh bien, à 95%, les actions proposées lors des Journées du patrimoine, pour les milliers de visiteurs qui se présentent à cette occasion, sont mises en place par les associations. La ville propose un soutien, un encadrement, et bien sûr organise le programme, mais c'est surtout une action associative. Donc cette réalité roubaisienne, transpire complètement, est omniprésente en réalité. Et moi-même, bien sûr, il m'arrive de travailler donc très régulièrement avec de nombreuses associations qui traitent de cette dimension historique, culturelle, patrimoniale, par exemple, et pas seulement, bien sûr, dans la ville. Voilà, grosso modo, un peu en grande ligne, nos principaux partenaires. Vous le voyez, c'est un travail de relation, en effet. Ça n'est pas une organisation verticale avec la ville qui déciderait tout, les élus. Il y a beaucoup d'échanges qui se font et qui font, en l'occurrence, dans ce cas, évoluer les projets.
D'accord. Alors, Roubaix est une ville avec un patrimoine riche, mais aussi une histoire assez importante. Donc, ce patrimoine, il est important non seulement de le valoriser, mais aussi de le partager. Donc, comment se traduit ce travail de partage dans vos actions mises en place et quelles sont les conséquences pour la ville et son histoire?
Alors, dans votre question, il y a énormément de points en réalité. Il y a à la fois l'aspect pratique et puis les sources. Alors, les sources, quelles sont-elles? Eh bien, en effet, c'est ce patrimoine qui est riche et qu'on redécouvre parfois très régulièrement. Certains bâtiments qui ont été négligés et qui vont faire l'objet d'un regard particulier peuvent justement attirer l'attention et être défendus quand c'est nécessaire. Et il arrive donc que nous soyons sollicités avec nos collègues du service de l'urbanisme et de l'architecture pour considérer ce point-là. Là, on parle d'architecture, mais il y a aussi les objets d'art qui sont très nombreux. Il y a un environnement en général. Nous travaillons aussi avec le service des espaces verts, de l'espace public, afin de, là aussi, donner des pistes, des clés, des éléments de lecture, des informations pour cette valorisation. Et puis, bien sûr, il y a le travail avec les habitants. Alors, je vous parlais du cas des associations. Ce sont souvent des habitants, bien sûr, tout simplement, qui animent et travaillent dans ces associations. Et ce sont des objectifs, des missions pour nous, aussi à destination de ces habitants. Les habitants, dans le cadre d'une convention ville ou pays d'arrêt d'histoire, sont la première cible. C'est pour ça que je vous parlais, par exemple, tout à l'heure du jeune public, c'est-à-dire des jeunes habitants. Qui viennent ainsi obtenir un enrichissement de tout le système éducatif en général, mais qui va se faire aussi par un lien avec le quotidien et proposer un regard différent. Et ça, c'est une étape, par exemple, tout à fait fondamentale, puisque, pour résumer, au final, l'objectif avec cet enrichissement du système éducatif et ce regard plus précieux porté par le jeune public, par exemple, sur son propre environnement, son quartier, sa maison, son immeuble, peu importe, eh bien, c'est une manière d'en faire ensuite des gens qui seront, à l'âge adulte, par exemple, aussi des individus capable de défendre ce patrimoine, si j'ai envie de dire la graine a bien prise, et donc ainsi d'échanger, de poursuivre ce phénomène du partage. C'est un vœu pieux, c'est un peu idéaliste, mais ça fonctionne, on le sait, en petite proportion, et l'idée est là. C'est-à-dire que ce n'est pas un programme autoritaire, c'est vraiment du relationnel, et puis ça dépend, comme je disais, par exemple, des porteurs de projets, comme un enseignant, qui vont travailler dans ce sens. Et ensuite, au fur et à mesure, eh bien, avec aussi nos partenaires de l'Office de tourisme, quand nous proposons des visites guidées, des expositions, des publications tout à fait nombreuses dans le réseau, et aussi donc à Roubaix ou pour nos collègues de la région, eh bien, tout ça, ce sont des outils qui sont mis à disposition donc à la fois des habitants, mais aussi des visiteurs ou de toutes personnes curieuses. Et tout cela crée une dynamique assez cohérente qui part dans de nombreuses directions. On essaye un peu d'aller tous azimuts en fonction de nos moyens. Et ainsi, on obtient cette valorisation du patrimoine. Mais c'est un travail de fourmi, un travail souvent discret, qui se fait de façon très progressive. Et cette progression se poursuit très clairement. Donc chaque jour, on gagne un peu plus, ou on peut perdre aussi selon les situations. Et c'est comme ça qu'on avance sur ce terrain de cette valorisation du patrimoine.
Donc vous avez parlé de ces publics qui sont très variés. Hein. Vous avez parlé des étudiants, donc on compte 12 000 à Roubaix. Les tout-petits, donc qui font partie des habitants qui représentent la première cible des différentes actions. Et donc comment on adapte les différents discours de médiation afin de capter chacun, sachant que ces publics sont différents, variés, et donc forcément par définition ne sont pas les mêmes.
Alors le principe est assez simple. L'obtention du label, par exemple, s'appuie sur le fait que seront recrutés un certain nombre de professionnels qui participeront de cette médiation, où en seront idéalement les uniques acteurs. Et donc, on peut prendre l'exemple des guides conférenciers de l'Office de tourisme, qui ont presque tous, je pense, à Roubaix, c'est une équipe assez consistante, l'agrément du ministère de la Culture pour animer ces visites guidées. Ça signifie qu'ils ont un certain socle de formation initiale, idéalement de l'expérience, qu'ils maîtrisent justement le discours. Et c'est dans ce sens ensuite que vous allez vous adapter au public. Certains guides conférenciers, par exemple, ne se sentent pas très à l'aise avec le jeune public. Peu importe, au contraire, il y en a qui sont très à l'aise avec le jeune public. De toute façon, ça s'apprend aussi. Moi, quand j'ai commencé, il y a une dizaine d'années, à travailler pour le réseau, j'avais intégré un poste d'animateur pédagogique. Et j'avais en réalité très peu d'expérience. Et puis en quelques années, tout s'est mis en place. J'ai pu, évidemment, bénéficier du conseil des enseignants, par exemple, avec ce jeune public. Et puis, au bout de quelques années, je me suis senti très à l'aise et j'étais assez satisfait. Et la satisfaction que j'avais, c'était de voir que, justement, le jeune public, les enfants, par exemple, tout simplement, avec lesquels je travaillais, prenaient aussi plaisir à appréhender ces questions, à appréhender ces domaines. Et ça, c'est toujours une vraie récompense. C'est une récompense de ce travail accompli, mais c'est aussi la conviction que vous allez dans le bon sens et que l'information, qui est le cœur du travail, est bien passée et que vous allez ainsi progresser. Donc, tout cela, ce sont des méthodes qui s'apprennent. La médiation, ça s'apprend soit sur le terrain, comme souvent j'ai pu le faire, soit avec, évidemment, des spécialistes de l'encadrement. Il y a aujourd'hui de plus en plus, d'ailleurs, de formations qui interrogent le patrimoine, la façon dont il est présenté, et j'en passe. Donc, avec des contacts avec les professionnels, comme je suis devenu, par exemple, eh bien vous allez aiguiser votre méthode de travail et vous saurez, d'ailleurs, si vous vous sentez plus ou moins à l'aise avec tous les publics. Dans mon cas, moi, je me sens à l'aise avec tous les publics. En fait, l'important, en fait, c'est de maîtriser le discours. Voilà. Et si vous vous êtes mal à l'aise, c'est parce que, malheureusement, vous n'êtes pas omniscient, vous maîtrisez mal le sujet, mal le discours, c'est embarrassant. Mais si vous maîtrisez le discours, et si vous avez en plus un petit peu d'expérience avec la majorité des publics, si vous ne vous sentez pas trop impressionné par des VIP, si vous êtes au contraire tout à fait prêt à prendre du temps avec les enfants, eh bien, ce sera très simple. En fait, il faut être à peu près convaincu. On parle souvent d'une passion, peut-être, dans le domaine, mais il y a quand même une méthode. Et la base, c'est bien la maîtrise du discours. Quand vous maîtrisez le discours, ensuite, vous lui mettez la forme que vous voulez. Et avec le public, vous vous adaptez. Vous n'aurez pas non plus la même méthode s'il pleut ou s'il fait très beau. Voilà. Vous vous appuyez sur ce point, la manière des Anglais, qui parlent tous les jours du temps, la première rencontre, hein, et vous avez vu, il fait beau aujourd'hui. Ben, dans notre domaine, c'est très important, parce que quand vous faites une visite à l'extérieur, j'ai beaucoup travaillé en musée aussi, mais quand vous êtes à l'extérieur, le temps, c'est un facteur terrible. Et avec les enfants, ça devient très compliqué. Donc, il y a des moments où c'est quand même plus difficile, en plein mois de janvier, par exemple, même si en ce moment, il est assez clément, ça va être beaucoup plus difficile de mener une visite guidée qu'un groupe d'enfants de 7-8 ans pendant 2 heures. Vous aurez toutes les peines du monde. Donc là aussi, il faut s'adapter. Et l'idéal, par exemple, avec le jeune public, c'est de le faire en plusieurs étapes. C'est-à-dire, vous n'attaquez pas tout de suite le gros du morceau, vous n'allez pas leur faire assister à une conférence de 90 minutes, ils ne vont rien comprendre. Si vous arrivez de façon progressive, là, ça fonctionnera. Et au bout de 3 ou 4 interventions, en général, l'information est parfaitement passée. Et si en plus vous le faites avec un volet ludique, là, non seulement elle sera bien passée, mais en plus, elle va être agréable pour ses enfants. Et au final, il en retiendra un très bon souvenir d'abord, et probablement une bonne partie des infos. Vous savez que les enfants retiennent beaucoup, leur cerveau est en pleine ébullition, et donc, comme nous, tous, au quotidien, ils absorbent énormément. Et si vous le faites de la bonne manière, forcément, ça sera d'autant plus efficace et d'autant plus agréable. C'est un point important. Pour terminer, le fait que la médiation, ça doit être un moment confortable pour le public d'abord, qui l'a souvent demandé, et aussi pour l'animateur de cette médiation. Si vous obtenez cet équilibre, c'est très très bien, et j'imagine qu'une visite guidée sérieuse dans laquelle vous aurez au moins fait la transmission de 4 ou 5 dates et de 3-4 informations, c'est réussi, c'est bien. De toute façon, nous, on n'est que le début d'un phénomène et on fait de la sensibilisation, on fait beaucoup de sensibilisation. L'idée ensuite, c'est que le public, quel que soit son âge, ait envie après d'aller chercher un peu plus, d'en savoir un peu plus et qu'il devienne, comme je vous le disais, idéalement un acteur aussi de ce patrimoine.
Et est-ce qu'on peut parler pour le label d'un rôle social, c'est-à-dire qu'il peut rassembler les individus autour de la culture par le biais des différentes actions qui sont mises en place?
Bien sûr, il y a une vraie réalité sociale. Par exemple, il n'y a pas de terrain sélectionné sur notre territoire roubaisien. Nous travaillons avec toutes les écoles, tous les établissements. Et chaque quartier, d'ailleurs, a ses richesses. Certains en ont un peu moins, c'est vrai. Bon, je ne vais pas faire un état des lieux maintenant, mais vous avez en effet une concentration, par exemple, plus pertinente pour aller à la louche de monuments dans le centre-ville que dans certains quartiers périphériques. Peu importe. L'idée, c'est d'aller à la découverte de cette histoire qui se fait en plusieurs couches. Si à certains endroits, elles sont plus nombreuses, c'est très bien. Mais en tout cas, il y a en effet un travail, comme je le disais, qui est en lien étroit avec la dimension éducative. Et cette dimension éducative, elle passe par des acteurs du secteur, avec des associations, et elle va aussi, dans ce cas, aller un peu partout. Et elle va aussi proposer, d'ailleurs, à des enfants de se déplacer. La question de la mobilité dans la ville, la question de la mobilité dans une conurbation, vous savez, est essentielle aujourd'hui. Et la relation entre la dimension culturelle, le cadre de vie, le patrimoine, l'histoire d'un territoire et la façon dont les habitants s'y déplacent est très important. On a des phénomènes de cloisonnement, par exemple, dans beaucoup de quartiers roubaisiens. Et lorsque des enfants viennent par dizaines de milliers chaque année au musée de la piscine, qui leur est parfaitement ouvert, eh bien, pour eux, c'est parfois un petit voyage initiatique. Mais on ne fait que mettre à disposition ce à quoi ils ont droit. Mais en tout cas, là, on a, d'une certaine manière, on peut le dire, hein, humblement peut-être, tout simplement un rôle social, un rôle de valorisation de ce patrimoine, mais aussi de valorisation de l'individu lui-même, puisque le patrimoine, c'est une appropriation. Et donc, si vous donnez des clés d'accès, puis des clés de lecture, ça ne peut être que de l'enrichissement.
Alors, plusieurs villes bénéficient du label. Alors, en quoi le travail exercé sur Roubaix est-il différent du travail exercé dans d'autres villes comme Nîmes,
Alors, concrètement, la méthode est à peu près toujours la même par rapport à ce qu'on vient de dire depuis quelques minutes. Voilà. Il y aura de très bonnes idées qui émergeront. Les outils sont toujours un peu les mêmes. Et la méthode, comme je disais, est toujours la même. C'est-à-dire, vous avez un objet à exploiter, entre guillemets, un sujet à exploiter. Vous avez ensuite des moyens pour le faire et une cible à atteindre. Voilà. Donc, grosso modo, voilà comment ça fonctionne. Vous avez plein d'outils différents, vous avez plein de méthodes différentes, mais l'objet est toujours le même. Vous pouvez à peu près parler de la même manière d'un arc antique que d'un bâtiment moderne, entre guillemets, ou actuel des années 2000. La forme peut-être va changer, mais la méthode doit être la même, c'est-à-dire la conviction doit être la même, surtout si en effet il faut justement engager cet objectif auprès de votre public. Et les conventions sont très proches les unes des autres. Ce qui diffère, bien sûr, concrètement, c'est plus les habitants. Et dans ce cas-là, la façon dont il va falloir agir. Et en effet, on ne travaille pas, nous, à Roubaix, avec les écoles, avec les associations, comme je vous le disais tout à l'heure, par exemple, comme nos collègues de Sarlat, qui ont, par exemple, au contraire, beaucoup plus de public touristique. Et donc, eux, la dimension Vidar à l'histoire va être une bonne partie de l'année plus orientée vers le tourisme, qui est de plus en plus fort, d'ailleurs, à Roubaix, il faut le préciser. Mais ce travail auprès des habitants, le rôle un peu social que vous évoquiez, bien sûr, tout à l'heure, sera, par exemple, en proportion plus ou moins important selon les territoires. Et puis, la convention Ville et Pays d'Art et d'Histoire est aussi différente parce que, vous avez des villes et puis vous avez des pays. J'ai des collègues en Normandie qui interviennent, ce qui parfois est très complexe, sur des territoires constitués de plusieurs dizaines de communes rurales. Donc la convention est toujours la même, vous allez toujours devoir faire un programme avec des visites, valoriser votre territoire, atteindre le public. Mais vous voyez que l'étendue d'un tel territoire, le cas roubaisien pour moi déjà est assez complexe, puisque c'est une grande ville de 100 000 habitants, avec beaucoup de gens qui n'ont pas de lien direct avec cette dimension culturelle ou patrimoniale. Mais dans un autre territoire, les conditions seront différentes. Les conditions de médiation aussi, puisque, comme je vous le disais, l'équipe de guide conférencier de l'Office de tourisme de Roubaix, c'est plus de 15 personnes. Dans certains territoires ruraux, comme nous l'évoquions tout à l'heure, là, les guides sont moins nombreux. Et donc, c'est plus difficile de travailler.
Et pour conclure, pensez-vous aujourd'hui que votre travail est accompli et que cet esprit de partage que vous tentez de maintenir est présent chez certains? Et sinon, quelles sont vos perspectives pour...
Alors, il y a des petites victoires régulières, en effet, en fonction des opérations qu'on met en place. Avec les différents partenaires, je vous parlais de l'Office, des associations, et puis il y a des rendez-vous réguliers, je vous évoquais bien sûr les journées du patrimoine. Lorsque celles-ci sont fréquentées, par exemple à Roubaix régulièrement, par plus de 5 à 6 000 personnes sur moins de 48 heures, on peut considérer que c'est une opération qui a obtenu du succès. Mais ensuite, il y a un travail permanent. Il y a un travail permanent parce que le patrimoine, c'est fragile. Donc, il est en permanence fragile. Et parfois, il faut en permanence convaincre aussi à continuer de le valoriser, de l'entretenir et tout ce qui accompagne ce genre de questions. Et puis, les générations se succèdent. Donc, les objectifs sont toujours à renouveler. Et il faut aussi se renouveler. On a, par exemple, un ensemble de publications qui existent. Voilà, elles sont conservées comme telles, on les réédite régulièrement, mais il en faut des nouvelles. Et il faut toujours réalimenter la question. En plus, on a aussi une certaine dimension politique. Moi, je travaille pour une collectivité territoriale. Donc, il y a des orientations qui sont prises et qui vont varier d'une génération à l'autre des élus. Mais les objectifs sont assez vastes. Et puis, les décisions aussi du ministère changent. Les dotations changent, les ministres changent. Et ça peut avoir des conséquences très importantes. Mais la très grande majorité des animateurs et animatrices de l'architecture du patrimoine sont des gens qui partagent en général les mêmes objectifs, les mêmes points de vue. Nous sommes même constitués en association pour renforcer notre propre travail, parce que là aussi, selon les territoires, c'est très différent. Mais pour Roubaix, par exemple, avec le renouvellement de la convention en 2017, il y a un nouveau projet à 10 ans qui a été proposé. Et l'une de nos premières étapes en ce moment, c'est la réalisation ou la première étape de la réalisation d'un SIAP dans le musée La Manufacture. Voilà, ça, c'est un gros projet très ambitieux en lien avec l'extension du musée de la piscine. Ça, c'est un vrai objectif et ça permettra d'orienter différemment, d'atteindre de nouveaux objectifs, de travailler d'une nouvelle manière avec un projet qui est différent mais qui se prolonge par rapport au précédent.
De belles perspectives culturelles hein, pour Roubaix à l'avenir. Merci beaucoup François Vergin d'avoir répondu à nos questions.
Ouais, c'était un plaisir, comme Hugo l'a dit, c'était un rendez-vous très enrichissant. Donc on remercie François Vergin, on le rappelle, animateur de l'architecture et du patrimoine au service Ville d'art et d'histoire de la ville de Roubaix, ainsi que Hugo et Jaël, donc j'ai écorché le prénom tout à l'heure et j'en suis désolé. On va se retrouver tout de suite avec le troisième groupe et encore une fois, merci à tous les trois.
Merci.